Alors, ce matin, on continue notre série dans l'Évangile de Luc. Puis pendant que j'étais en train de me préparer à ça, il y a quelque chose qui m'a frappé. On va le développer ensemble, puis on va écouter un passage ensemble. Dieu est vraiment pas fort sur les VIP. Vous allez voir, ça sort à travers tout le passage. VIP, very important person, OK? Dieu n'est pas fort là-dessus. C'est comme, il n'y a pas un petit faible pour les gens qui rentrent à quelque part avec leur carte privilège et qui s'en viennent, parce que les autres, c'est des VIP. Puis on vit à l'époque des VIP. On veut acheter n'importe où ma carte VIP qui va faire que lorsque je rentre à l'aéroport, moi, je ne fais pas la ligne. Et lorsque je m'en vais au cinéma, moi, hein, parce que là, c'est la dernière patente, vous avez vu Cinéplex Odéon, VIP, je suis en train de faire de la publicité, vous allez tous vouloir y aller. Mais quand même, c'est quand même Space Cadet, là. Parce que lorsque tu t'en vas là-bas, tu es dans un autre département, il n'y a pas d'enfants qui sont là, c'est 18 ans et plus. Il y a un bar, alcool, tu peux faire même un tête-à-tête où tu vas manger avec ta bien-aimée dans des fauteuils super de luxe. En fait, l'annonce, c'est l'expérience cinématographique ultime. Ça m'a consolé, je me suis dit, après ça, il n'y en aura pas de plus high que ça, on va retomber sur Terre, c'est l'ultime. Après ça, on tombe dans la réalité, tu sais. Il n'y aura rien de plus haute qui va sortir. Dieu ne tripe pas sur les VIP. Le VIP, c'est celui qui veut acheter le droit d'être reconnu comme quelqu'un d'important. Le VIP, c'est celui qui veut, par ses moyens, dire « Remarquez-moi, je suis là. » Et dans le passage de ce matin, on va aller voir des VIP. On va aller voir ce que Dieu en pense. Puis on va voir ceux qui vraiment attirent le regard de Dieu. Lesquels attirent Dieu? Ouvrez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît. On va survoler super rapidement le passage, mais comme ce sont de longs passages, j'aime juste introduire puis qu'on voit un petit peu comment est-ce que ça se développe, d'accord? Luc 14, et là on va aller de 14, verset 1, jusqu'à 16, 31. Donc très, très large portion des Écritures. Et il y a des thèmes qui vont sortir de là. Il y a plusieurs paraboles que Jésus va enseigner. Les paraboles, ce sont de brèves histoires, pour ceux qui ne sont pas familiers, de brèves histoires à travers lesquelles on va aller tirer une, deux leçons qui parlaient aux gens vraiment, puis en fait, qui nous parlent encore aujourd'hui. Plusieurs de ces paraboles-là sont super contemporaines, super appropriées pour l'époque. Julie va nous en lire deux, en fait. D'accord? Mais le passage commence sur un moment où Jésus va faire une guérison, un jour de sabbat, jour de repos pour les Juifs, jour aussi où tu allais prier, tu allais être consacré à Dieu, mais jour de repos. Et Jésus va faire une guérison à ce moment-là. Et bien souvent, Jésus l'a déjà fait avant, il s'est pris, il y a eu des prises de bec avec les chefs religieux parce que les gens sont hypocrites, tout ça. Il y a une autre leçon que Jésus est en train de préparer ici et que Luc veut souligner, l'auteur de l'Évangile de Luc. Luc veut souligner le fait que Dieu aime avant tout guérir, prendre soin, aller vers ceux qui souffrent. Et donc, avec cet événement-là, Luc est en train d'introduire toute une séquence. Il va y avoir plusieurs petits segments qui vont revenir sur ce thème-là. Toute la question du VIP est adressée tout de suite après. Quand tu vas dans une noce, assis-toi pas dans la première rangée, de peur que, je veux dire, le maître de cérémonie vienne te voir et dire ah, « Je suis désolé, c'était réservé pour quelqu'un d'autre. Il faudrait que tu recules un petit peu, peut-être encore un petit peu plus. » Mais en fin de compte, tu vois, il reste de la place au fond. Je pense que ça serait peut-être plus ta place. Et il dit « Non, assis-toi en arrière. » Puis laisse le privilège à d'autres de pouvoir t'inviter à avancer. Ensuite de ça, on a la parabole du grand souper. Les gens qui, en fin de compte, justement, sont trop importants pour venir à une noce où ils ont été invités, trop occupés, ils n'ont pas de temps pour ça. Et on voit à travers ça qui Dieu va inviter. Dieu va inviter les brebis perdues, les paumés, les gens qui ne sont pas aimés de la société. Ensuite de ça, il continue avec un appel à justement une véritable repentance. Pas venir avec prétention à Dieu, mais venir avec humilité. Quel est le... À quoi ça ressemble, cette repentance-là? Et puis, il va y avoir quelques paraboles, quelques images, quelques illustrations qui vont exprimer à quel point Dieu aime les gens qui sont perdus. Et on a la parabole du fils prodigue que que Julie va nous lire. Et le récit continue comme ça, en soulignant le fait que Dieu aime les gens qui sont perdus. Dieu aime les gens qui sont humbles. Et à travers toutes ces leçons-là, on va pouvoir faire ressortir qu'est-ce que ça veut dire l'humilité devant Dieu. Dans le langage biblique, on parle généralement de repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance? On va prier ensemble. Père éternel, on veut humblement se courber devant toi. Reconnaître, Seigneur, que s'il y a une personne vraiment importante, c'est toi. C'est toi seul, Seigneur, qui mérite ce titre-là de VIP universel, Seigneur. Parce que tu es notre Créateur. Tu es celui qui nous donne la vie. Tu es celui qui soutient toutes choses. Et c'est un privilège pour nous ce matin d'être rassemblés pour te célébrer, pour t'élever des chants de louange. Dire tes bontés, dire ta beauté, Seigneur. Te dire que nous t'aimons. C'est un privilège pour nous ce matin, Seigneur, de se pencher sur tes Écritures et écouter, méditer ensemble pour recevoir ce texte-là comme étant ta parole, ta sainte parole qui instruit nos âmes, qui nous guide, qui nous donne du discernement, qui bouleverse et transforme nos cœurs. C'est notre privilège ce matin, Seigneur, d'assister à des baptêmes, de voir des gens qui concrètement affichent ce geste d'humilité, de reconnaître que tu es Dieu, de se repentir devant toi, Seigneur, et de placer leur foi en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, viens nous rencontrer ce matin. Et Père, j'aimerais te demander si quelques-uns d'entre nous se sentent justement ce matin comme cette brebis seule, isolée, égarée, un peu perdue dans leur cœur, dans leur âme, dans ce monde qui roule à une vitesse folle. Viens, Seigneur, les rencontrer ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Les passages bibliques de ce matin sont tirés du livre de Luc, au chapitre 15, versets 11 à 32, et au chapitre 16, versets 19 à 31, nouvelle édition de Genève. Luc, au chapitre 15, versets 11 à 32. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carougues que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. « Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et il demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Luc au chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. » Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. » Qu'ils les écoutent. Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. »
Merci, Julie. Vraiment une belle parabole qui parle encore aujourd'hui. Ce matin, on va voir ensemble que Dieu aime par-dessus tout. Je vais le dire comme ça, soyez pas offensés, OK? Les brebis galeuses, les âmes esselées, les gens qui sont paumés, mais qui le savent que c'est leur état profondément. Et Dieu est extrêmement sensible lorsqu'un cœur se repent, honnêtement, véritablement, il se tourne vers lui. Dieu a un gros faible pour les brebis égarées. Ce qu'on va faire, c'est que je vais survoler le passage très rapidement, puis on va juste souligner quelques leçons, puis après ça, on va voir comment on les applique, d'accord? C'est l'avantage de survoler tout un passage. Jésus préfère sauver et guérir que de se reposer. Dans la première section de notre passage ce matin, tout à l'heure, je l'ai mentionné, mais c'est un jour de sabbat, c'est un jour de repos, puis... Chaque fois que Jésus voit des besoins lui sont exprimés, son cœur est sensible. Et on l'a vu ailleurs dans sa vie, dans son ministère, même lorsque lui-même était épuisé, lorsqu'il était exposé à des besoins, il mettait de côté son repos pour pouvoir aller répondre aux besoins. Et Jésus, plus que quiconque sur la terre, reflète le cœur de Dieu. Fait que ça... Ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est pas concevable, l'idée qu'on peut déranger Dieu avec nos soucis. L'idée qu'on peut déranger Dieu dans sa gloire, sa majesté, avec des besoins. Ou l'idée encore que Dieu soit insensible au malheur des hommes sur la terre. Je comprends que Dieu semble bien silencieux, mais Dieu nous annonce qu'un jour, toutes choses vont arrêter. Chaque être humain se présentera devant Dieu. Et donc, Dieu est sensible. Et à travers concrètement la personne de son Fils ici, Jésus préfère guérir, prendre soin, sauver, que de se reposer lui-même. Ensuite de ça, juste vous lire le passage, je m'excuse. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? » Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit, le renvoya. Les tout croches. Jésus préférait se tenir avec les gens qui font les entêtes de journaux pour les mauvaises raisons. Jésus préférait se tenir avec ces gens-là, puis parler des vraies affaires avec eux, qui sont souvent conscients que leur vie, c'est n'importe quoi, que de se tenir avec les gens propres, bien, les bien-pensants de la société. C'est Jésus. Il aimait ça. Il poursuivait ça. Plus confortable avec des gens tout croche, des vies tout croche, des vies brisées, par toutes sortes de stupidités ou de tout simplement de bad luck dans la vie, mais souvent aussi des fautes personnelles, des négligences. Ceux qui avaient des mauvaises réputations, Jésus aimait se tenir avec ce monde-là. Plus qu'avec ceux qui avaient bonne réputation dans sa société. Jésus prit la parole, Luc 14, 3 et 4, et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il, je m'excuse, j'ai sauté dans Luc 15, 2, et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'était sa réputation. Quand les gens comparaient Jean-Baptiste, qui est le prophète qui l'a précédé, puis Jésus, c'était sa réputation. Les brebis perdues. Jésus était prêt à tout mettre de côté. Je veux dire, il l'a fait littéralement, là. Encore, si la Bible dit la vérité, Jésus a quitté le ciel. Tu ne peux pas mettre plus de choses de côté que de quitter la gloire de Dieu pour venir chercher des tout croches. Mais concrètement, dans son ministère, Jésus était prêt constamment, au quotidien, à tout mettre de côté pour aller chercher une brebis qui est perdue. Luc 15, 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Retenez ce passage-là, d'accord, il y a pas mal d'ironie là, dans le texte, qui n'ont pas besoin de repentance. Si vous connaissez Jésus, vous savez qu'il est pratiquement sarcastique ici. Et puis, il va l'illustrer encore avec une parabole d'une dame qui avait perdu une pièce de monnaie, une dame qui avait peu d'argent. Et ce qu'il veut exprimer là, c'est la joie de cette dame-là lorsqu'elle retrouve cette pièce-là, qui a une grande valeur pour elle. Puis il dit, il y a une joie semblable qui se passe au ciel lorsque un pécheur se repent. Luc 15, 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Dieu aime les gros bébés gâtés qui se repentent. C'est comme si, devant la repentance, Dieu en perd comme toute sa mémoire. Dieu ne garde pas rancœur à une personne qui l'a méprisé pendant des années, puis qu'à un certain moment dans sa vie, entre en lui-même, réalise qui il est, et se tourne vers Dieu. C'est exprimé d'une manière extraordinaire dans le passage. Je vais lire un passage un tout petit peu plus long. Dans Luc 15, les versets 12 et 13, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est un gros bébé gâté pourri qui dit de mon vivant, donne-moi mon héritage, puis ça va complètement le dilapider. Honnêtement, c'est le pire fils que tu peux avoir. Tu sais, c'est le genre d'enfant qui te crève le cœur. Il s'en va comme ça. Il dilapide son bien, il scrape tout, il débauche tout le kit, tout ce qu'il peut faire de plus insensé, de plus stupide, c'est ça qu'il va faire. Puis ensuite de ça, on arrive aux versets 17 et 19. « Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de tes employés. » Et il se leva et alla vers son père. Puis, je veux juste vous lire, d'accord? Au verset 21. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. » Le fils ne s'est pas rendu dans tout son discours de repentance où il a dit combien il avait été détestable. À partir du moment où Dieu l'a vu s'en venir à la maison, le passé est effacé. Il n'y a pas comme de « Ouais, mais là, c'est parce que là, il y a ton frère, tu sais, qui a travaillé fort, puis là, tu vas venir bénéficier, peut-être tu pourrais faire un remboursement de la dette, je ne sais pas, tu as tout dilapidé. En principe, cet argent-là, ça me sert à moi, puis quand je te donne ton héritage, tu le prends. » Puis il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de place pour ça dans le cœur de Dieu. Tout ce qu'il a le temps de faire, c'est de se tourner vers son Père, puis la joie est là dans le cœur de Dieu. Les paumés, les gens mal pris, Luc 14, 21, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, c'est lorsque la noce, tout ça, puis les gens qui avaient été invités ne voulaient pas y aller, tout ça. Le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Invite-les, eux, à la noce. Eux, je veux les avoir. » Luc 16, 20-21, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Mais Dieu était touché par sa misère, touché par sa condition, touché certainement par sa piété. Comparativement au VIP, il lui avait probablement pas besoin de Dieu. Quelle leçon il y a pour nous dans ça? Laissez-moi le formuler comme ça, d'accord? Parce qu'on grandit comme Église. Moi, je vois l'Église grandir. Je suis vraiment encouragé de voir à quel point on est plus sensible, on est plus accueillant, on est plus là pour les gens qui ne vont pas bien. Si l'Église n'est pas là pour les gens qui ne vont pas bien, c'est quoi qui va se passer? Il leur reste l'urgence à l'hôpital? Sont engorgés les urgences. Mais laissez-moi quand même vous poser des questions pour qu'on réfléchisse ensemble ce matin. Est-ce qu'on va préférer guérir autour de nous en aimant, en aidant, en annonçant la seule parole qui guérit vraiment, l'Évangile? Ou est-ce qu'on va préférer se reposer et vaquer à nos occupations? Une église qui s'ouvre sur la communauté à l'extérieur pour accueillir les gens qui ne vont pas bien, fais pas juste ça. Elle quitte sa zone de confort puis elle va vers eux. C'est ça que Jésus faisait. Jésus, elle ne les attendait pas dans les synagogues, dans les lieux de prière, puis il disait, « OK, les mal pris, vous viendrez me voir, je suis là, j'ai un petit temps pour vous, vous viendrez me rencontrer. » Jésus allait manger chez eux, en brisait sa réputation. Et ça demande du temps, ça demande une vie qui est bouleversée, où on crée de l'espace pour ça. On a de la misère juste à trouver le temps pour se reposer puis juste être fonctionnel. Honnêtement, on a de la misère juste à être fonctionnel. Mais je vous propose qu'on a de la difficulté à être fonctionnel, entre autres en raison de nos priorités. Et dans un moment de repos, la priorité de Jésus devant un besoin, c'était d'aller guérir, d'aller aider, d'aller aimer. Est-ce qu'on va préférer se tenir avec les gens de mauvaise vie, les débauchés, qui savent qu'ils sont tout croches, qu'avec les bien-pensants qui sont certains d'être des VIP. L'avantage quand tu tiens avec des VIP, c'est qu'il y a comme un retour sur investissement, tu sais. Je te donne un peu, tu me donnes un peu, tu vas m'inviter, écoute, je t'invite à souper, belle table, bonne bouteille de vin, belle soirée, tu m'en dois une, tu vas m'inviter, on va passer du bon temps. Va ramasser un tout croche dans la rue, puis invite-le à manger chez vous. Il peut t'inviter. Ça se peut que tu pries avant d'y aller, hein? Tu dis, Seigneur, j'espère que ça va être bon, j'espère que ça va aller, j'espère que tout va être sain, que tout va être correct. Tu ne peux pas t'approcher des gens qui souffrent, qui, par leur misère, à quelque part, sont, je m'excuse de dire comme ça, sont sales, parce que leurs vies sont brisées. Tu ne peux pas t'approcher de ces gens-là sans que ça revienne sur toi, sans te salir les mains. Tu ne peux pas aller aider dans des situations de crise sans avoir à prendre une partie de cette crise-là dans ta vie. Quand tu décides de te tourner vers les gens qui souffrent, ta vie va être bouleversée, je te le garantis. Puis ils ne vont pas t'offrir un bon petit Bordeaux pour te remercier. Ils vont te dire merci avec une larme, puis ça va être ça ta récompense. Ou peut-être pas du tout. ça sera ça aussi ta récompense. Mais est-ce qu'on va préférer être avec les gens propres, bien pensants, sécures? Est-ce qu'on va être prêt à tout mettre de côté pour aller chercher la brebis perdue? Une des tensions dans une église, puis là je parle vraiment à l'église, quand une des tensions dans une église, lorsqu'une assemblée commence à grandir, à ouvrir son cœur sur la communauté à l'extérieur, il y a une tension qui s'installe. Parce qu'on voit tous les besoins à l'intérieur dans l'Église, puis on dit, oui, mais il y a tellement de gens qui ont besoin qu'on les aide. Il y a tellement de gens qui, oui, se sont fait baptiser, oui, ont commencé à grandir, oui, ont commencé à cheminer, mais il y a encore tellement besoin d'aide. Ils se sont mariés il y a 5 ans, puis ça marche pas. Faut aller les aider, leur couple va pas bien, puis là, ils vont essayer d'élever des enfants, puis ça va être n'importe quoi. Puis là, il y a une tension qui s'installe. Moi, je pense que notre cœur est à la bonne place, mais je pense que notre cœur va être encore challengé, pas mal plus que ça. Est-ce qu'on va être prêt à comprendre ce besoin-là de la personne qui n'a même pas Jésus-Christ, qui n'a pas reçu et connu Jésus-Christ, puis qui est pris dans son bourbier? Et accepter qu'il y a des sacrifices qui viennent avec ça, qu'il va falloir que tout le monde man up un peu, grandisse un petit peu plus, se prenne un peu plus en charge. Parce que déjà, j'ai reçu Christ. Je vais détourner les regards un petit peu de moi pour les focusser à l'extérieur, tout en prenant soin de l'Église, mais en saisissant la gravité de la situation de tant de personnes à Longueuil dans la Montérégie. Est-ce que comme Église, on va se réjouir profondément chaque fois qu'une personne va venir à Christ, chaque fois qu'une personne va se repentir? Mais peut-être plus concrètement encore, dans ta vie personnelle, lorsqu'une personne qui t'a fait du mal va venir vers toi puis va te demander pardon, est-ce qu'elle doit passer un questionnaire pour valider la profondeur de la chose? Ou est-ce que tu vas avoir le cœur de Dieu, le cœur du Père, qui est simplement content de voir son fils revenir à la maison, n'importe comment, avec toute l'histoire qu'il y avait, on s'en rappelle plus. Parce qu'il y a juste la joie de le retrouver. Moi, je vois une église qui grandit. Je vois une église qui a encore besoin de grandir, encore et encore, pour vraiment porter puis ressembler à Jésus-Christ. Pour la ville de Longueuil, pour la Montérégie. Dieu aime les paumés. Et Dieu sait qu'il y en a des paumés autour de nous. Il y en a ici des paumés. Dieu est sensible à la souffrance réelle, la souffrance physique, aux gens qui sont abandonnés, aux gens qui sont mal pris économiquement, aux gens qui sont mal pris dans leur santé. Dieu est sensible à cela. Mais dans tout ce passage-là, il y a quelque chose qui ressort où on voit que ce qui touche encore plus le cœur de Dieu, c'est lorsqu'un individu, une personne réalise qu'au-delà de toute sa misère physique, au-delà de toutes ses gaffes, au-delà de toutes ses niaiseries, au-delà de tous les défis que la vie peut y apporter, c'est intérieurement, premièrement, qu'on est paumé. Je reviens sur mon histoire des VIP, d'accord? Ce ne sont pas ceux qui pensent avoir les premières places au ciel qui vont les avoir. Mais c'est ceux qui se repentent. Et dans le passage ici, Jésus veut adresser le fait que les chefs religieux estimaient être des VIP devant les hommes. Ces gens-là se promenaient puis ils étaient des very important persons. Mais le plus vicieux dans ça, c'est que ça se traduisait dans leur rapport avec Dieu aussi. Parce que ce qu'ils faisaient, qu'à leurs yeux, ils étaient des VIP, c'est qu'à quelque part, ils incarnaient la piété parfaite. C'était des grenouilles de bénitier, comme j'ai dit la semaine dernière. Et ça changeait leur regard envers Dieu. Ils étaient tellement confiants dans leur piété, dans la qualité de leur cheminement spirituel, qu'ils estimaient que Dieu leur devait quelque chose. Ils étaient en transaction avec Dieu. Par leur piété, ils s'étaient achetés une carte privilège pour le ciel. C'est ce qu'il croyait. Puis on peut penser que ça ne ressemble pas à notre société, parce que notre société n'est pas religieuse comme elle l'a été il y a 50 ans. La société québécoise s'est profondément transformée. C'est drôle, j'ai le sentiment, quand je regarde comment on se comporte en général comme société, j'ai l'impression qu'on poursuit encore plus ces standings-là devant les hommes d'être des VIP. Puis on veut les acheter, ces privilèges-là. On veut réussir. Puis avec nos succès, on va se mériter des positions privilégiées. Et cette attitude-là se traduit aussi dans notre rapport avec Dieu, comme société occidentale. Aujourd'hui, généralement, les gens devant Dieu estiment être des VIP. Pas parce qu'ils sont pieux, parce qu'ils existent. Dans leur rapport avec Dieu, ils ont cette matière à réflexion, d'accord? Peut-être t'es pas d'accord avec moi. Mais ils regardent Dieu, puis écoute, Dieu, tu m'as créé, puis quand même, je suis quelque chose. Puis toi, t'es le Dieu d'amour. Fait que l'idée que je te devrais quelque chose, que je devrais marcher de certaines manières, que je devrais m'examiner pour voir si j'ai fait le bien, le mal, mais qu'est-ce que le mal? Je suis une créature merveilleuse. Dieu est amour. Dieu me doit tout. Puis on est dans cette espèce de rapport-là, on est tous des VIP, oubliant complètement le fait que si j'existe, j'ai un Créateur qui m'a mis sur la terre. Si je respire, c'est un privilège. Si je vis aujourd'hui, si j'ai la santé, c'est un privilège. C'est pour ça que C.S. Lewis dit que la souffrance est bien souvent le porte-voix de Dieu, parce que c'est lorsque je perds plusieurs de ces privilèges-là, ces grâces de Dieu, que des fois, un peu d'intelligence commence à venir en moi, puis je dis, wow, peut-être que je ne méritais pas ça. Peut-être, en fin de compte, que c'était une grâce. Peut-être que je ne l'ai pas construit, mon existence. Peut-être qu'on me l'a donné. Peut-être qu'on m'a donné la santé. Peut-être qu'on m'a donné l'intelligence. Peut-être qu'on m'a donné la beauté ou pas. Mais ce sont des grâces, des privilèges. Et aujourd'hui, ce n'est pas les chefs religieux avec tout leur sparage qui prétendent être des VIP. Je pense que c'est généralement nous, comme société occidentale, qui estimons devant Dieu que Dieu nous en doit toute une, puis qui devrait nous respecter un petit peu plus s'il veut qu'on l'aime. Hein? L'amour, ça se mérite. Matière à réflexion, vous penserez à ça. Mais je crois que c'est souvent ça. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ceux qui, au fond d'eux-mêmes, réalisent que devant un Créateur, devant un Dieu saint, parfait, ils sont en réalité dépaumés. Ils sont en réalité très mal pris. Parce qu'on n'est pas droit, parce qu'on n'est pas pur, parce qu'on n'est pas parfait, c'est pas vrai. Parce que fondamentalement, on est capable des pires méchancetés. Fondamentalement, on est des êtres qui bien souvent retombons dans nos réflexes profondément égoïstes. Fondamentalement, notre attitude, c'est pas une attitude de révérence, de reconnaissance envers Dieu. Comme je l'ai dit, on est des VIP. Il m'a mis au monde, ben, qui mérite mon amour. Hein? La repentance dans ce passage-là, c'est premièrement, savoir que je ne mérite pas l'amour et la grâce de Dieu. C'est ça, premièrement, la repentance. Luc 15, 17, 19, étant entré en lui-même, toujours notre jeune homme qui revient à la maison, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne. » C'est le mot-clé. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, un de tes employés. Il ne s'en vient pas à son père en disant, « Oublie pas que je suis ton sang. Tu me dois. » Il revient en disant, « Je ne mérite rien. » Et la repentance, quelques caractéristiques de la repentance, c'est une attitude de cœur où je réalise premièrement que je ne peux pas mériter l'amour et la grâce de Dieu. C'est quelque chose que Dieu offre et que je dois accepter malgré le fait que je ne le mérite pas. Il n'y a pas de repentance possible, Il n'y a pas de marche chrétienne possible si je ne vis pas ce moment-là où je réalise que toutes les bontés de Dieu, je ne pourrai jamais les mériter. Ce sont des actes de grâce de la part de Dieu. Deuxième caractéristique de la repentance, ceux qui plaisent à Dieu, ce sont ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Alors, si vous vous rappelez, il y avait cette histoire d'un mariage, d'une noce, puis les invités de la noce sont on envoie les faire-part, on les invite, on leur dit c'est à telle date, puis les faire-part reviennent, non, je serai pas disponible, non, je serai pas là. Puis en fin de compte, le célébrant dit, OK, va chercher tous les gens qui sont dehors dans la rue, oui, mais il n'y en a pas encore assez. La repentance, c'est répondre à l'appel de Dieu. Dans l'histoire de Lazare et du mauvais riche que Julie nous a lu, la deuxième parabole, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce récit-là? À la fin, l'homme riche qui est mal pris maintenant dit, écoute, j'envoie quelqu'un pour avertir mes frères. La réponse d'Abraham, c'est, ils ont la loi et les prophètes, ils ont la Bible. C'est à eux de répondre à l'appel. Non, mais ils ne comprennent pas s'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Non, ils ont la parole de Dieu. Et si cette histoire-là avait été racontée après la mort et la résurrection de Jésus, ça aurait été, ils ont la loi, les prophètes et Jésus-Christ. Ils se repentent avec ça. La repentance, c'est répondre à l'appel de Dieu. Et chacun d'entre nous, on a une décision à prendre quotidiennement. Quotidiennement, lorsque l'Esprit-Saint me montre un domaine dans ma vie où ça ne va pas, la repentance, c'est répondre à l'appel de Dieu. Une autre caractéristique, renonce à tout pour aimer Dieu par-dessus tout. Jésus va super loin, il nous challenge. Chapitre 14, verset 26, il dit, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » La repentance s'exprime lorsqu'à un certain moment donné dans mon cœur, je dis « Dieu est Dieu et je suis une créature. » Et en comparaison avec Dieu, il n'y a rien de comparable. Ni mon épouse, ni mes enfants, ni ma vie, ni mes droits, ni mes biens. Dieu est Dieu, je ne suis qu'une créature. Et la repentance s'exprime par cette espèce de mouvement-là où je replace les choses dans leur axe comme elles doivent être. Et des fois, on marche dans la vie chrétienne, on avance, puis on a la difficulté à surmonter des obstacles, des péchés dans nos vies, des choses qu'on n'arrive pas à transformer. Mais il y a ce combat, hein, on va les appeler parfois des idoles, il y a ce combat où cette chose-là que je désire, je la désire plus que Dieu. Et donc, je ne suis pas capable de me tourner vers Dieu puis abandonner cela. Parce que c'est devenu tellement important dans ma vie, ça prend la place de Dieu. Dernière caractéristique. Celui qui se repent investit ses ressources. Écoutez bien ceci. Pas pour aller faire des prières tous les dimanches, tous les matins. Investit ses ressources pour le bien de son prochain que plutôt que pour eux-mêmes. Un des thèmes qui, à travers tout le passage, c'est comment qu'est-ce qu'on fait avec nos biens? On poursuit la richesse, on poursuit le succès, toutes ces choses-là. Puis un des thèmes qui est à travers tout ça, c'est que lorsque Dieu vient chercher un cœur, puis ce cœur-là se repent, tout d'un coup, je regarde mon temps, je regarde mes ressources, puis elles sont orientées ailleurs. Il y a un bouleversement profond, fondamental, dans ma manière de voir mes ressources, de voir mon bien. Fait que si je le prends concrètement, je prends les quatre caractéristiques. Réaliser et accepter que je ne mérite pas l'amour et la grâce de Dieu. Répondre à l'appel de Dieu. Renoncer à tout pour aimer Dieu par-dessus tout. Investir mes ressources pour le bien de mon prochain plutôt que pour moi-même. OK. On a 168 heures dans une semaine, tu as tant de temps dans une semaine, tu regardes ton temps, puis à un certain moment donné, tu dis, « Ah, il y a probablement trop de temps que je passe en loisir dans ma semaine. C'est pas très constructif, ça s'en va nulle part, cette affaire-là, mais c'est comme un combat dans mon cœur. Comment est-ce que ça s'applique, la repentance, concrètement, dans ce cas-là? » On dit qu'on se repent avec l'Évangile, hein, avec l'Évangile de Jésus-Christ, ça se passe à la croix. Prenez la grâce qu'il y a là, puis laissez-moi l'appliquer concrètement. Ici, on prend les quatre étapes. La première chose que je vais faire, c'est que je vais réaliser et je vais accepter que je ne mérite pas le temps que je possède. Le temps que j'ai devant moi, la santé que j'ai pour consommer ce temps-là, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'a mis au monde à travers mes parents. C'est Dieu qui me donne la santé pour bénéficier de ce temps-là. Il s'agit qu'il me l'enlève pour que je le mesure très, très bien que c'est une grâce de Dieu. Alors voyez-vous, je retourne à cette idée de grâce. Je ne mérite pas ce temps-là. Il m'est donné. C'est une bonté, c'est l'expression de la bonté de Dieu. Ta job, ton argent, ton temps, les gens autour de toi, tu penses que tu les mérites. Ah, tu as travaillé fort. Mais toutes les ressources que tu as prises pour travailler, c'est Dieu qui les a données par grâce. Alors, je réalise que je ne mérite pas ce temps-là. Deuxièmement, je réponds à l'appel de Dieu dans mon cœur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon temps? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce temps-là? Tu veux que je passe 168 heures, je vais en passer 140 dans la prière, dans le jeûne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon temps, Seigneur? Je réponds à l'appel, puis je m'en vais avec cette question-là à Dieu. Je n'ai pas encore toutes les réponses. Troisièmement, je renonce à tout pour aimer Dieu par-dessus tout. Fait que moi, je vous mets au défi de faire quelque chose cet après-midi, super concret. Prenez votre agenda, pas des agendas papier, je suis conscient, mais prenez votre écran. Juste pour le fun, prenez la semaine dernière, effacez tout ce qui est écrit dedans. Bon, faites une sauvegarde, là. Allez en 2063, OK? Trouvez une page blanche. Puis là, dites, ça c'est à toi, Seigneur. J'ai 7 jours, 168 heures, ça c'est à toi, Seigneur. J'annonce à tout. Puis là, commencez à chercher. Commencez à prier. Oh, vous avez des engagements, des responsabilités. C'est bon. Mais passez-les une à une avant de recomposer votre semaine. Passez-les une à une dans la prière. Quatrième caractéristique de la repentance, investir mes ressources pour le bien de mon prochain plutôt que pour moi-même. C'est vraiment intéressant. À travers tout l'évangile de Luc, la repentance se traduit le plus concrètement envers ma manière de servir les gens autour de moi. Lorsque nous, les chrétiens, on pense à la repentance, on pense toujours à « je me repens devant Dieu ». Mais regardez ce que le jeune homme a dit. « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». La repentance, dans l'évangile de Luc, se traduit généralement par des gestes concrets que je vais poser envers des gens réels autour de moi. Ma repentance envers Dieu se traduit en action. Fait que je reprends encore mon illustration de ma page blanche. Puis là, je dis, OK, Seigneur, dans ces 168 heures-là, comment est-ce que je peux faire du bien autour de moi? Je ne les regarde pas comme des devoirs, je les regarde comme un privilège de m'investir parce que ce temps-là m'a été donné comme une grâce de Dieu. C'est un privilège qui m'a été fait. Je ne mérite pas, il m'a été donné. Puis je réponds à l'appel. Fait que simplement, je suis en train de dire, Seigneur, comment est-ce que je peux servir les gens autour de moi? Servir mon épouse, moi je suis marié, ça fait partie de mon appel de servir ma famille. J'ai des enfants, comment est-ce que je vais les servir? J'ai encore du temps, qu'est-ce que je vais faire avec ça? On l'a fait avec le temps, là, l'exercice, prenez les quatre caractéristiques, faites-le avec n'importe quoi. Vos ressources financières, les rapports humains, comment vous parlez avec les gens autour de vous, vos relations au travail, vos ambitions personnelles. Chacune d'entre elles, prenez la chose avec laquelle vous luttez actuellement, passez à travers ces quatre caractéristiques-là de la repentance. Et lorsque vous êtes bloqué à une de ces caractéristiques-là parce que vous dites « Non, je suis désolé, c'est pas là dans mon cœur ça, moi je la ferai pas cette étape-là », vous allez réaliser que vous êtes paumé, vous êtes tout croche. Restez là dans la prière. Jésus est vraiment attiré par les tout croches. À travers ce passage-là, il y a un dernier thème que je veux souligner. À travers le passage, il y a cette idée que, à travers le mariage, on l'a vu, que ceux qui se repentent, ceux qui réalisent qu'ils sont petits en réalité devant Dieu, qu'ils sont mal pris devant Dieu parce qu'ils sont pécheurs, ceux-là, Dieu va les inviter à une noce incroyable, à un party complètement malade. Voyez-vous, ce serait cool si toutes les positions VIP dans la société, c'était des cadeaux. Tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas le mériter, ta petite carte privilège. Tu ne vas pas la gagner en accumulant des points avec ta carte de crédit. C'est un cadeau qu'on va te faire. Et si c'était le cas, ça ressemblerait à ce que Dieu veut faire avec nous. Parce que je ne peux pas l'acheter, ma carte privilège au ciel, mon VIP au ciel, mon VIP devant Dieu. Je ne peux pas l'acheter. Il n'y a pas de carte de points qui va me permettre de gagner ça, cette affaire-là. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas m'inviter à une fête incroyable puis m'honorer d'être assis justement, pas au fond de la salle, mais à la table des noces de l'agneau. Au contraire, si je réalise que je ne peux pas l'acheter, ma carte privilège, et si je réalise que je suis pécheur, si je réalise que je ne mérite pas cette carte VIP-là, et que je réponds à l'appel de Dieu, que je me tourne vers lui, je l'aime lui avant toute chose sur la terre. Je m'investis pour aimer les gens autour de moi comme un geste concret de ma repentance. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une fête incroyable qui se fait au moment où je me repens et on est invité à une fête extraordinaire dans l'éternité. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, s'il y a une place encore aujourd'hui où on peut se sentir chez soi, Seigneur, lorsqu'on est seul et mal pris, c'est dans ta présence. S'il y a un cœur qui demeure toujours disponible pour celui qui entre en lui-même et qui réalise sa misère, c'est toi, Père. Cette semaine, j'étais touché de voir combien t'exprimes des sentiments, des émotions, de la joie dans le ciel. Une fête à chaque fois qu'un individu se repent, qu'une personne entre en elle-même, reconnaît sa misère devant toi et se tourne vers toi, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas cette semaine essayer de mériter de gagner ton amour. Je ne veux pas cette semaine, Seigneur, essayer de gagner mes points à travers mes devoirs religieux, Seigneur. Je veux commencer chaque journée en reconnaissant que je ne peux pas les mériter, je ne peux pas les gagner. Je veux simplement m'abandonner à toi, Seigneur, et à ta grâce, au pardon qu'on trouve en Jésus-Christ pour nos péchés. Et je veux répondre à l'appel, Seigneur. Je veux répondre à l'appel, je veux te poursuivre, toi, plus que toute chose, Seigneur, dans ma vie. Que toute personne, que tout rêve, que toute passion, je veux premièrement que tu sois là au centre, Seigneur, de mon univers. Seigneur, je suis disponible. Je suis disponible pour aller vers les gens paumés, les gens mal pris, les gens qui vont compliquer ma vie lorsque je vais commencer à les aimer parce que leur vie est compliquée. Je suis disponible, Seigneur. J'ai du temps pour ça. Amen. Amen.